Avant d'aborder proprement dit la prédication, je voulais vous partager quelques nouvelles de cette semaine où Cathy et moi nous avons assisté à la rencontre annuelle pastorale de notre association d'église à Évian et où nous avons vraiment, en tout cas, je pense, passé d'excellents moments et pas simplement parce que nous étions face à un magnifique paysage, mais surtout parce que là-bas, au travers des différents enseignements, mais aussi au travers des échanges personnels que nous avons pu avoir avec les uns et les autres, nous avons été particulièrement bénis. Je trouve le bon côté aussi de ces rencontres, où là nous étions, je ne sais pas, une bonne centaine, je pense. C'est que c'est également très stimulant de voir ce que Dieu fait ailleurs, dans d'autres églises, en d'autres lieux. Nous avons un Dieu qui est agissant, et c'est toujours réconfortant, stimulant de voir ce qu'il fait. Nous avons aussi été bénis à travers des discussions donc avec d'autres personnes engagées dans le ministère pastoral ou dans les conseils d'église qui partageaient leurs diverses expériences. Nous avons aussi été, en tout cas, très impressionnés et très encouragé par une chose, c'est le nombre de jeunes qui étaient présents là-bas, des jeunes hommes, des jeunes femmes, 20 ou 25 ans, qui ont mis un temps à part pour se former, dans le but de rentrer dans un ministère pastoral, dans l'église. Et jusqu'à présent, nous avions un petit peu l'impression d'être les jeunes là-bas, plus maintenant, même à tel point, à un moment, quelqu'un avait pris la parole et en fait, dans ce qu'elle disait, elle demandait aux jeunes femmes de s'exprimer. Et Cathy, qui était là, ne l'a pas pris pour elle, parce qu'à côté de nous, il y avait des jeunes, comme nous, mais des jeunes avec 20 ans de moins, qui étaient là, et qui étaient venus pour s'engager. Et ça, c'était vraiment formidable. Nous sommes également très reconnaissants parce que si nous avons pu aller ensemble à cette pastorale, c'est parce que plusieurs personnes, et ils se reconnaîtront, ont permis que ce soit possible, et entre autres, en s'occupant bien et avec amour de nos enfants. Ce qui nous a permis, nous deux, d'être libérés, de pouvoir participer ensemble à cette pastorale. Merci pour ce service que vous avez rendu pour que nous puissions être là-bas. Et ce matin, nous allons justement parler de service, une des missions de l'Église, c'est-à-dire une des missions que le Seigneur a confiées à son peuple, à ceux qui lui appartiennent, hein, parce que c'est ça l'Église, c'est pas une institution, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés par le Seigneur. Donc, vous l'avez compris, nous allons poursuivre ce matin la série de prédications sur la mission de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur a confié à son Église comme mission ? Sachant que la grande mission de l'Église, c'est avant tout la gloire de Dieu. C'est de célébrer et de manifester la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est glorieux. Mais glorifier Dieu peut se manifester de différentes manières. Et nous pouvons distinguer 5 grandes manières de glorifier Dieu. Ce sont les 5 missions d'Église. Alors nous avons tout d'abord déjà parlé de l'adoration, puis ensuite de l'édification. Nous avons également vu la communion fraternelle, l'évangélisation, et ce matin, nous parlerons du service. Nous sommes tous des serviteurs de Christ, nous sommes tous des serviteurs des autres. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Philippiens, et je lirai au chapitre 2, à partir du verset 1. Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. ne faites rien par esprit de rivalité ou par défi d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir parcouru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Le service. Dans l'Église, il y a toutes sortes de services. L'enseignement, le ménage, les visites, l'accueil, aller chercher quelqu'un avec sa voiture et l'emmener quelque part, effectuer des travaux d'aménagement, la comptabilité, la décoration, sortir les poubelles, ranger, animer un groupe de maison, jouer de la musique, accomplir des démarches administratives, aider un déménagement, s'occuper d'un blog, du blog de l'Église, de la sonorisation, du désherbage, la prière les uns pour les autres est également un service dans l'Église. Et il n'y a pas de liste comme ça exhaustive aux différents services. Le service dans l'Église, c'est tout ce qui est fait dans l'Église, dans l'intérêt des autres, au service des autres. S'il n'y avait pas de service dans l'Église, il n'y aurait pas d'Église. Tout dans l'Église n'est que service. Dans l'Église, il y a un seul Seigneur, Christ. Et nous tous, sans distinction, nous sommes appelés à être des serviteurs. Et nous pouvons, dans notre Église, être reconnaissants parce que de nombreux d'entre nous ont répondu à l'appel de Dieu qui est de servir dans l'Église de manière visible ou invisible. Et ainsi, de nombreux services existent dans l'Église dont nous bénéficions tous. Lorsque nous sommes arrivés à Villefranche, donc maintenant c'était il y a bientôt 8 ans, nous sommes arrivés avec 3 enfants de moins de 5 ans. Et quelques mois plus tard, nous avions 4 enfants de moins de 6 ans. Eh bien, quand vous avez 4 enfants de moins de 6 ans et que vous allez à l'Église, des fois, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on y va? Parce que si c'est pour passer tout le temps comme ça dans une église en essayant presque de bâillonner l'enfant qui est en train de crier pour gêner personne, vous dites, mais on serait bien mieux à la maison. Mais lorsque nous sommes arrivés à Villefranche, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir qu'un vrai service de prise en charge des enfants était proposé. Et nous pouvions venir à l'église avec nos 4 enfants, dont le plus grand était comme ça. Nos enfants étaient aimés, entourés, et nous-mêmes, nous pouvions assister au culte. Et ça faisait un bon moment que nous ne pouvions plus assister, en tout cas tous les deux, à un culte. Et ce service des uns en notre faveur, en faveur de nos enfants, nous a permis à notre tour de nous mettre au service de l'Église. Être un serviteur n'est pas quelque chose de toujours évident. Nous avons tous des réticences naturelles avec l'idée d'être au service de quelqu'un d'autre. Moi, ça se voit parfois lorsque je conduis. Je pense que je suis quelqu'un de très courtois en voiture, et quand quelqu'un veut traverser, je m'arrête pour le laisser passer. Mais il y a quelque chose qui m'énerve. C'est quand la personne traverse et ne me dit pas merci. Alors qu'en fait, le code de la route dit, à partir du moment où cette personne est devant un passage, elle est prioritaire, donc c'est son droit, je dois la laisser passer. Mais quelque part, avec ma voiture de 2 tonnes, je me sens un petit peu en position de force, donc c'est presque, je lui rends en service en la faisant traverser. Alors, quand elle me dit merci, je suis tout content, et quand la personne comme ça passe, ça me met en colère. Et mon épouse, qui est fort sage, qui est assise à mes côtés, et des fois elle est témoin de ça, elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu as laissé passer? Est-ce que tu l'as laissé passer pour toi ou pour elle? Alors, naturellement, je dis, c'est pour elle. Et donc je devrais être content. Même si elle ne me dit pas merci, c'est pour elle que je l'ai laissé passer. Mais souvent, dans notre tête, même lorsque nous rendons un service à quelqu'un, quelque part, nous espérons en retirer un bénéfice. Nous confondons souvent être au service de quelqu'un et travailler pour quelqu'un. Et la différence entre les deux se situe au niveau de ce que cela va nous rapporter à nous personnellement. Lorsque je suis au service de quelqu'un, je fais les choses pour la personne. Et pour elle seulement, même si cela ne me rapporte rien du tout. Lorsque je travaille pour quelqu'un, je exige, ça va mieux comme ça, je vais le couper en deux, je exige, parce que je m'entraînerai à la maison, de recevoir en échange de mon service, entre guillemets, quelque chose. Alors, si c'est un travail rémunéré, je m'attends d'avoir un salaire. Les gens qui travaillent dans le service public attendent en retour de leur service un salaire. Mais si jamais je rends service, entre guillemets, dans une association, je m'attends à avoir aussi quelque chose en retour. Un remerciement, une gratitude, une valorisation personnelle. Travailler pour quelqu'un ne nous pose guère de problème si nous sommes payés en retour, si nous avons une compensation. Parce qu'au final, c'est nous qui en bénéficions. Nous le faisons par amour pour les autres, bien sûr, mais nous le faisons aussi par amour pour nous. Mais être simplement un serviteur de quelqu'un d'autre, sans rien recevoir en retour, ça, c'est humainement beaucoup plus difficile. Parce que cela nous demande de faire les choses uniquement pour l'autre et pas pour nous-mêmes. Eh bien, dans l'Église, Dieu nous demande non pas de travailler les uns pour les autres, mais de nous faire le serviteur des autres, d'être au service les uns des autres, de servir sans recevoir quelque chose en échange, sans rien recevoir en compensation, de servir l'autre non pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour celui que nous servons. Humainement, c'est quasiment impossible, parce que nous allons nous vider si nous donnons aux autres sans rien recevoir en retour. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et justement, dans le cadre de notre service, Dieu nous invite à nous rappeler de ce que nous avons reçu. Et avant même de nous demander de servir, nous dit, mais considérez ce que je vous ai déjà donné. Ça nous amène à notre premier point, notre foi en Christ, ce que nous avons en Christ, a des répercussions sur notre vie et donc sur notre service. Dans la lettre que nous avons lue, avant de mentionner le service et la notion d'être serviteur, Paul amène dans un premier temps les chrétiens de Philippe à se rappeler ce dont leur foi en Christ les fait bénéficier. Au verset 1, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, voilà, considérez tout ça, s'il y a tout ça, ne sommes-nous pas encouragés par notre communion avec Christ? Ne sommes-nous pas réconfortés par son amour? Ne sommes-nous pas en communion par le Saint-Esprit? Communion avec Dieu, communion avec nos frères et sœurs. Ne bénéficions-nous pas de l'amour fraternel au sein de l'Église? N'avons-nous pas tout ça déjà? Considérons notre situation, considérons-la où nous en sommes et ce que nous avons. Et c'est vrai que nous ne sommes pas une association ordinaire, nous ne sommes pas un club de sport ou de quel que soit d'autre. Nous formons un groupe extraordinaire, l'Église. Nous sommes une communauté d'hommes et de femmes qui sont animés par Dieu. Une assemblée dont Dieu est le centre. Une assemblée que Dieu nourrit. Nous sommes un groupe de personnes dans lesquelles l'Esprit de Dieu est vivant et dans lesquelles l'Esprit de Dieu réconforte les cœurs et nous encourage. Parce que nous avons cette foi en Christ, pour toutes les raisons que nous avons énumérées, nous sommes exhortés à mettre notre foi, à quoi ? À mettre notre foi en action. Et en vivant en plein accord les uns avec les autres, en ayant un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Notre foi en Christ, notre communion avec lui, doit nécessairement avoir des répercussions sur nos relations avec nos frères et sœurs. Si Christ est réellement en nous et au milieu de nous, alors nos relations entre nous doivent être animées par l'amour, l'unité et la volonté d'avancer ensemble. Et comment concrètement va se manifester cet amour pour Dieu, ainsi que l'amour fraternel, l'unité et la volonté d'avancer ensemble? Comment, comme le dit Paul, notre foi va être mise en action? En nous mettant volontairement au service des autres. C'est notre deuxième point. Dans l'Église, nous sommes tous des serviteurs les uns des autres. Nous placer volontairement, librement au service des autres commence dans un premier temps par renoncer déjà à notre intérêt personnel. Verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Notre tendance naturelle, et la société dans laquelle nous vivons, nous pousse à rechercher ce qui est valorisant pour nous et à rechercher ce qui sert nos propres intérêts. Et notre propre conception, d'ailleurs, de l'Église est influencée par cela. Après tout, ne venons-nous pas à l'Église pour nous faire du bien à nous? Ne venons-nous pas à l'Église pour recevoir quelque chose pour nous? Alors, ces motivations ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont même légitimes. Il est légitime d'espérer recevoir ce dont nous avons besoin pour marcher et avancer avec Dieu. Ce qui devient un problème, c'est de ça dont il est question ici, c'est lorsque nous considérons que nos propres besoins, nos propres désirs doivent passer avant ceux des autres. Ce qui n'est pas bon, c'est lorsque nous pensons que l'Église est là à notre service, que l'Église est là pour nous servir. Parce que nous oublions un point important, l'Église n'est pas une chose. L'Église est un rassemblement d'hommes et de femmes qui, unis à Christ, ont décidé d'avancer ensemble. L'Église ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à Christ, c'est nous qui appartenons à son corps, c'est nous qui appartenons à son Église. C'est Christ qui est au centre de l'Église et pas nous. Nous confondons parfois l'Église avec un club, un distributeur ou un supermarché. Et nous attendons de l'Église qu'elle nous serve toutes sortes de bonnes choses. Qu'elle nous serve la musique que nous aimons, qu'elle nous propose des activités qui nous intéressent, qu'elle soit propre, qu'elle soit accueillante, qu'elle prenne en charge nos enfants, qu'elle nous donne des amis, qu'elle nous dise ce que nous avons envie d'entendre. Ah ouais, chouette, ça va exactement dans le sens de ce que je croyais. Nous attendons que l'Église nous donne toutes sortes de choses. Et puis, si nous ne sommes pas contents de ce que l'Église nous donne, eh bien, qu'est-ce que bien souvent on fait, ce que font certains? Eh bien, on essaye une autre Église. On change de crèmerie, comme on pourrait dire. Il y a des chrétiens qui essayent, comme cela, les églises les unes après les autres, mais qui ne s'engagent dans aucune de ces églises. Dans aucune église, ils ne sont des serviteurs, mais dans toutes, ils sont des consommateurs. Alors, c'est particulièrement vrai, par exemple, en région parisienne. En région parisienne, il y a une telle quantité d'églises que vous pouvez ainsi aller dans une église, et puis une autre, et puis une autre. Vous pouvez de changer d'église toutes les semaines, en un an, vous n'aurez pas fait le tour. En 10 ans, vous n'aurez pas fait le tour. Donc voilà, on peut ainsi butiner d'église en église, jusqu'à trouver l'église qui va nous servir ce que nous attendons. L'église n'est pas une chose, mais une communauté vivante d'hommes et de femmes qui veulent avancer ensemble. Nous ne devons pas perdre de vue la dimension communautaire de l'Église. Voilà pourquoi il nous est dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Nous avons parfois des réticences à nous mettre au service des autres. Alors, premièrement, parce que nous ne sommes pas certains que si jamais nous faisons cela, que nos propres besoins soient satisfaits. Si je suis préoccupé à satisfaire les besoins des autres, qui va répondre à mes propres besoins? Et c'est pour vaincre cette peur-là qu'il est important que nous nous rappelions notre position en Christ. Christ est celui qui satisfera nos véritables besoins. Notre sécurité est en Christ. Laissons Dieu répondre à nos propres besoins. Deuxièmement, nous avons des réticences à nous mettre au service des autres parce que nous considérons que ce n'est pas valorisant. Notre orgueil s'oppose à ce que nous devenions serviteurs des autres. Mais aux yeux de Dieu, vivre en serviteur n'a rien de honteux, au contraire. C'est ce que notre glorieux Seigneur a fait lui-même. Et comme Christ s'est fait serviteur, Dieu attend de nous la même attitude. Verset 5, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bulletin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Jésus est pleinement Dieu. Jésus est glorieux et digne de notre adoration, mais Jésus a librement fait le choix de devenir un serviteur. Rien n'aurait pu le contraindre à devenir serviteur, ni les puissances invisibles, ni la puissance des hommes. Pourtant, Jésus n'a pas considéré sa glorieuse situation comme un privilège à conserver. Jésus s'est humilié lui-même et il a pris la condition de serviteur. Jésus était au-dessus de tout, au-dessus de tous, et pourtant, Jésus s'est humilié lui-même pour se faire serviteur. Alors nous, qui ne sommes pas au-dessus des autres, mais qui avons tous la même dignité, comment ne nous mettrions-nous pas au service les uns des autres ? Aucun de nous n'est le Seigneur des autres. Aucun de nous n'est supérieur aux autres. Par notre foi en Jésus, nous sommes tous sans distinction des enfants de Dieu et des co-héritiers de Christ. Voilà ce qui est dit dans Galates 3:26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Si Jésus, qui était au-dessus de tous, s'est humilié lui-même et s'est fait serviteur, comment nous, qui avons tous la même dignité, ne nous mettrions-nous pas au service des uns des autres? Ce serait vraiment de l'orgueil mal placé. De l'orgueil de nous croire supérieurs aux autres. De l'orgueil de nous imaginer plus grands que notre Seigneur. Parce que ne pas nous mettre au service des autres, c'est nous considérer comme étant plus grands que Jésus lui-même. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 13 que je projette, que je vais lire. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous ne sommes que les serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas plus grands que notre Seigneur. Si Jésus s'est fait le serviteur des autres, nous devons nous aussi faire de même. Savoir que nous sommes des serviteurs, c'est souvent comme ça qu'on se présente. Serviteur de Jésus-Christ. Savoir ça ne suffit pas, il nous faut aussi le mettre en pratique. C'est ce que Jésus conclut. Et Jésus dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Dans l'Église, il n'y a donc qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, et nous-mêmes, nous sommes tous des serviteurs les uns des autres. Et nous devons être conscients pour cela que notre capacité à servir les autres n'est pas quelque chose de naturel. Notre service des autres est lié à notre communion avec Dieu. C'est notre troisième point. Notre service est le reflet de notre vie et de notre intimité avec Dieu. Nous revenons au texte de Philippiens, au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. » Ce dernier verset peut être compris de deux manières. Soit Dieu produit en nous le vouloir et le faire parce qu'il poursuit un projet bienveillant, soit Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon ce qu'il veut. Alors, la formule choisie par Paul est assez ambiguë, mais personnellement, je pense que c'est intentionnel chez Paul parce que les deux sont vrais. Dieu fait les choses comme il veut. Dieu est souverain et il fait toutes choses selon son bon plaisir, sans rendre de compte à personne. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour et par conséquent, sa volonté et ses projets sont des projets bienveillants. Voilà comment ce dernier verset est transcrit dans la parole vivante. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Par son esprit qui vit en nous, Dieu transforme notre cœur égoïste et égocentrique en cœur de serviteur. L'Esprit de Dieu nous transforme à l'image de Christ. Plus nous serons intimes, proches, en communion avec Dieu, plus nous serons réceptifs à l'action de son Esprit. Et si son Esprit vit en nous, alors naîtra également dans notre cœur le désir de nous mettre au service des autres. Notre relation avec Dieu précède notre service pour les autres. C'est ce qui ressort du verset 12. Mettez en œuvre votre salut. Ce n'est pas parce que je suis sauvé par Jésus que je suis sauvé. Excusez-moi. C'est parce que je suis sauvé par Jésus que je suis en mesure de servir les autres. Et pas l'inverse. Ce n'est pas parce que nous servons les autres que nous serons sauvés. Notre service des autres est un indicateur de l'état de notre communion avec Dieu. Et si nous n'avons pas un cœur de serviteur, posons-nous la question de savoir où nous en sommes avec Jésus. Peut-être ne l'avons-nous jamais rencontré. Jésus est-il réellement notre Seigneur ? Son esprit qui transforme notre cœur à l'image de Jésus, est-il bien vivant en nous ? Si nous ne mettons pas notre foi en action, cela n'indique-t-il pas que nous sommes peut-être religieux, mais que nous n'avons pas encore rencontré Jésus et que nous n'avons pas la foi qui sauve et qui produit en nous son effet ? Ce sont des questions à nous poser. Mais parfois, le cœur de serviteur est bien présent, il est bien là. Mais pourtant, nous sommes fatigués de servir. Nous sommes épuisés, nous sommes découragés. Servir Dieu et les autres est devenu pour nous un fardeau pesant. Nous n'éprouvons plus de joie à servir. Moi-même, cela, ça m'arrive de temps en temps. D'avoir ce sentiment de ne plus que le service, en tout cas, est devenu un fardeau pesant, lourd. Et il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Pratiquement tous les chrétiens engagés que je connais et qui ont un cœur de serviteur, il n'y a pas de doute là-dessus, passent eux aussi parfois par des moments de découragement. Si nous avons un cœur de serviteur, mais que nous sommes découragés dans notre service, c'est probablement parce que nous voulons tellement bien faire, tellement servir, que nous en faisons trop. Et parce que nous voulons tellement servir Dieu et les autres, nous ne prenons plus le temps ou la peine de faire ce qui devrait être premier dans notre vie, à savoir recevoir ce qui vient de Dieu. Pour être en mesure de donner aux autres, nous devons nous-mêmes déjà recevoir ce dont nous avons besoin, ce que Dieu veut nous donner. Sinon, nous allons nous épuiser, nous décourager. Sinon, nous allons faire les choses non pas en comptant sur Dieu, mais en comptant sur nos propres forces, sur nos maigres forces. Si nous avons un cœur de serviteur, mais que nous sommes découragés dans notre service, c'est que nous donnons plus aux autres ce que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Le découragement dans le service est un indicateur que nous avons besoin d'être encouragés, d'être nourris par Dieu, et que nous faisons plus que ce que Dieu nous demande. Il nous faut alors lever le pied et retrouver le rythme ou le mode de vie qui nous permettra à nouveau d'être nourris, encouragés, fortifiés par notre Dieu. Notre service pour les autres doit découler de notre communion avec Dieu. Veillons à maintenir cette communion. Quelque chose qui peut aussi être une source de découragement ou de fatigue pour nous dans notre service, c'est de ne pas servir au bon endroit. Nous ne sommes pas appelés à tout faire dans l'Église. Dieu ne nous a pas donné à nous personnellement tous les dons nécessaires pour accomplir toutes les tâches. Si vous croyez cela, enlevez-vous ce fardeau. Tout ne repose pas sur vous seul. Il y a même sûrement des domaines dans lesquels nous ne sommes pas doués, ou plus exactement pas dotés par Dieu des dons nécessaires pour accomplir ce service. Mais si jamais notre service correspond à nos dons, et nos dons correspondent généralement également à ce que nous aimons faire, alors notre service pour Dieu devient un plaisir. C'est formidable de mettre au service des autres les dons que Dieu nous a accordés. C'est formidable de faire ce que nous aimons faire et d'en faire profiter les autres. Nous ne sommes pas appelés à tout faire dans l'Église, mais à mettre au service des autres les dons et les aptitudes que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Servons le Seigneur selon notre appel et les dons qu'il nous a accordés, la sensibilité et les aptitudes que lui-même nous a données. Aimer le Seigneur est important. Avoir un cœur de serviteur est important. Servir avec nos dons est important. Mais il est également important de demander au Seigneur de nous aider à discerner l'endroit où nous devons servir. Alors l'Église est le lieu par excellence où nous pouvons servir. Parce que dans l'Église, nous sommes tous, sans exception, des serviteurs. Donc forcément, nous sommes appelés à servir dans l'Église. Mais l'Église n'est pas le seul lieu où nous pouvons servir le Seigneur et être au service des autres. Et parfois, ceux qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur manquent de sagesse en ce domaine et font passer leur service dans l'Église au détriment d'autres lieux de service. Lors de la pastorale des viands, j'ai participé à un atelier sur la gestion du temps. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il y avait ici de très jeunes pasteurs, alors jeunes comme moi en ancienneté, jeunes aussi parce qu'il y avait là qui avaient 25 ans, mais il y avait aussi des pasteurs qui avaient plus de 30 ans de ministère derrière eux. Et puis nous partagions ainsi nos difficultés à gérer notre temps. Et une des choses qui m'a frappé, c'est que tous les vieux pasteurs, entre guillemets, avaient le même regret. Tous regrettaient d'avoir, dans le cadre de leur service pour l'Église, délaissé leur famille. Ou tous regrettaient de s'en être aperçus, mais de s'en être aperçus trop tard. Un des pasteurs qui était là disait que avec son épouse, ils avaient régné leurs enfants et ils avaient demandé pardon à leurs enfants pour cela. Hier soir, quand je suis allé embrasser les enfants qui étaient dans leur lit, Lucie, avec sa petite voix, était là et puis elle m'a dit papa, elle m'appelle papa. Des fois que vous l'avez vu, les noriez. Elle m'a dit mais papa, c'est pas bien que tu sois pasteur. Alors moi je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, mais parce que depuis que tu es pasteur, tu passes tout ton temps derrière ton ordinateur et tu ne joues plus avec nous. Et c'est vrai, quand je suis à la maison, je suis souvent derrière l'ordinateur. Et je pense en tout cas, dans ce domaine, c'est une sorte d'avertissement qui m'est adressé, mais que j'ai vraiment manqué de sagesse dans la gestion de mes priorités durant les dernières semaines. Et que je n'ai pas servi le Seigneur au bon endroit. Servi le Seigneur, oui, mais peut-être pas au bon endroit. Et voici un verset que Paul écrit à Timothée, au chapitre 5, verset 8. Il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » L'Église n'est pas le seul endroit où nous sommes appelés à servir. La famille, bien sûr, mais nous pouvons également servir le Seigneur, et c'est peut-être à ça que le Seigneur nous appelle en particulier, à le servir auprès de notre voisinage, dans notre travail, au sein d'œuvres sociales, dans des missions. Ce qui compte, c'est de vivre notre vie tout entière avec un cœur de serviteur, mais de le faire avec sagesse et de discerner là où Dieu nous demande réellement de le servir. Dans notre situation particulière, avec les dons qu'il nous a accordés, avec les contraintes qui sont les nôtres. Dieu nous demande de vivre en serviteur et de partager tout ce que nous avons reçu de lui, mais Dieu ne nous demande pas de donner plus que nous avons reçu, et Dieu ne nous demande pas de dépouiller les uns pour donner aux autres. Notre service est un devoir, c'est vrai, mais notre service, lorsqu'il est bien vécu, est avant tout une joie. C'est une joie de partager aux autres ce que Dieu nous a donné. C'est une joie de servir les autres selon l'appel que nous avons reçu, selon les dons que Dieu nous a accordés. C'est une joie de vivre notre vie selon le cœur de Jésus. Si nous sommes en communion avec Dieu, alors nous vivrons notre service pour Dieu dans la joie et Dieu se glorifiera à travers nous. C'est notre quatrième point. En servant Dieu et notre prochain, nous glorifions Dieu et nous trouvons la joie. Le monde dans lequel nous vivons, notre propre nature orgueilleuse, voudrait nous dissuader de nous mettre au service des autres. Ne laissons pas notre nature prendre le dessus, ne laissons pas le monde corrompu nous influencer négativement. Mais au contraire, mettons notre salut en action, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu afin de nous mettre chacun à son service et au service des autres. Non pas comme si nous étions contraints, mais volontairement en tant qu'homme et que femme libre. Verset 13, Philippiens. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation. Quel dommage de vivre le service comme étant quelque chose de pesant ou un fardeau. Faites tout sans mesure, sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Par notre service volontaire, par notre vie d'enfant de Dieu, Dieu se glorifie dans le monde. La gloire revient à Dieu, car c'est Dieu qui opère dans nos cœurs le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met dans notre cœur le désir et les ressources pour devenir serviteur des autres. Notre service pour les autres, même conduit par Dieu, ne nous garantit pas pour autant que cela sera facile, ni même que cela va servir ce qui semble être nos intérêts personnels. Bien des serviteurs de Dieu ont payé très cher pour leur service et en étant au service des autres. En écrivant ce que nous venons de lire, Paul était parfaitement conscient de cela. Lui-même était prêt à mourir pour cela. Voilà ce qui est écrit au verset 17. « Même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » Paul était prêt à payer ce prix parce que Paul était si proche de Dieu qu'il goûtait pleinement à la joie de son service. Servir était devenu tellement précieux à ses yeux que sa propre vie semblait secondaire. Si servir les autres par nos propres forces nous épuise, servir les autres en communion avec Dieu, au contraire, remplit notre cœur de bonheur et de joie, même si nous rencontrons des difficultés. En conclusion, Dieu nous appelle à vivre en communion avec lui, c'est la première chose. Dieu nous appelle à mettre notre salut en action. Notre foi doit avoir des répercussions sur notre vie. Dieu, par son Esprit, nous appelle à servir d'une manière ou bien d'une autre. Dieu nous appelle à nous mettre, non pas sous le contraint, mais librement, volontairement, au service les uns des autres, pour qu'ensemble nous puissions prendre soin les uns des autres, qu'ensemble nous soyons plus forts. Dieu nous appelle à le servir, parce qu'au travers de notre service, la gloire de Dieu se manifestera. Répondons favorablement à l'appel de Dieu au service. Et alors, au service les uns des autres, nous pourrons nous approprier ce que Paul dit au verset 18. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joie au service du Seigneur et au service des autres. Amen.